Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous propose de commencer en vous saluant, certains que je vois régulièrement, d'autres qui viennent au gré de leur disponibilité. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver pour poursuivre ce cours où, cette année, donc, j'aborde la question de l'organisation dans le temps et l'espace des processus morphogénétiques. D'où le sous-titre du cours « Espace-temps-information ». Et donc, comme j'ai eu l'occasion de le dire, ces cours cette année sont une occasion de réfléchir à ce qu'on entend par l'information morphogénétique et en dépassant le cadre, certes juste, mais insuffisant, de l'information dite génétique. Et aujourd'hui, nous allons donc poursuivre le cours de la dernière fois où nous étudions l'auto-organisation de processus dans la cellule et à l'échelle multicellulaire sous la forme d'instabilité spatiale et temporelle. Donc je vais commencer par résumer les notions principales de la dernière fois pour poursuivre ce cours cette fois-ci. Donc la thématique générale est donc celle selon laquelle on peut voir l'information génétique, ou l'information biologique plus largement, comme procédant selon deux modalités, une modalité on peut dire, de programmes dans lesquels l'information est hiérarchiquement organisée également de façon modulaire, agissant à longue et courte portée, selon des réseaux d'interactions très complexes avec de multiples paramètres. Et vous voyez, le développement est un processus en construction qui s'oppose à une modalité d'auto-organisation qui, elle procède par interaction purement locale, dans sa forme la plus pure, par interaction directe également, et dans laquelle le contenu d'informations permettant d'expliquer l'émergence de structures complexes à l'échelle macroscopique dépend de peu de paramètres et de peu de règles d'interaction. Et les cours sur les instabilités spatiales et temporelles développent, à l'échelle cellulaire principalement, mais j'ai eu l'occasion de le montrer à une échelle plus grande, comme la termitière ici, d'interactions chimiques, mécaniques et mécanochimiques. Donc effectivement, il convient de séparer d'un point de vue pédagogique et même du point de vue des principes qui la gouvernent l'émergence d'instabilité spatiale et temporelle, d'où ces deux axes présentés ici, et également le fait que ces structures auto-organisées hors équilibre, en fait, peuvent émerger de contextes purement chimiques, comme on l'a vu avec les instabilités Turing que j'ai développées la dernière fois, mais également d'interactions de nature purement mécanique, comme j'ai commencé de le faire la dernière fois et comme nous allons le poursuivre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre l'émergence d'instabilités spatiales et temporelles selon des modalités purement mécaniques, puis voir comme cela se passe dans les cellules et en biologie, les interactions complexes entre chimie et mécanique, soit sous une forme hiérarchique où la chimie contrôle la mécanique, ou alors par des rétroactions que l'on va développer, permet également l'émergence de structures auto-organisées de nature mécanochimique, qui sont vraiment au cœur de cette information mécanochimique qui est au cœur des cellules et des organismes. Donc, pour reprendre le programme du cours que je vous avais énoncé, nous en étions à ce point 3.1, voilà comment, dans des modèles viscoélastiques, des agrégats de cellules peuvent émerger selon un modèle de Turing ou Turing-like de nature purement mécanique, que vous avez soit en tête si vous étiez là, soit que vous pouvez revoir, vous avez pu voir en vidéo, les cours étant accessibles en ligne, comme vous le savez bien. Et nous allons poursuivre maintenant d'autres types d'instabilité mécanique dans des cas à la fois hydrodynamique et de modèles viscoélastiques. Donc ce cours en fait va avoir pour commencer un certain nombre de la présentation d'un certain nombre d'études théoriques, mais j'aurai à cœur de montrer au fur et à mesure leur relevance avec des données expérimentales à l'appui, et pour finir enfin nous allons voir l'impact au cours du développement de toutes ces dynamiques. Donc pour résumer les notions essentielles de la dernière fois et qui restent tout à fait valables aujourd'hui, les instabilités spatiales émergent naturellement dans les cas où des espèces chimiques, un activateur en rouge s'auto-active donnant naissance à un processus autocatalytique qui amplifie des fluctuations locales, et puis l'activation d'un inhibiteur, à condition que les coefficients de diffusion de l'inhibiteur soient plus importants que celui de l'activateur, permettant ainsi une inhibition à longue portée qui stabilise la configuration, l'instabilité créée localement par l'auto-amplification de l'activateur en rouge. Voilà au cœur finalement d'un des motifs de Turing qui est le plus au cœur des processus biologiques. On peut trouver une variation sur ce réseau d'interactions centrales qui est très fréquent en biologie, dans lequel une condition sur le taux d'activation de l'activateur de cette boucle autocatalytique par rapport à la rétroaction, un délai en fait dans le processus d'inactivation par l'inhibiteur, introduit naturellement une instabilité temporelle que nous avons vue et qui est caractéristique des systèmes dits excitables, bistables ou alors avec des trigger waves comme nous l'avons vu. Donc vous voyez que des paramètres simples dans un réseau très présent en biologie donnent naissance à des instabilités spatiales et temporelles dans des cas simples où il s'agit d'espèces chimiques qui interagissent entre elles. Mais nous avons vu aussi que dans les cas d'interaction purement mécanique, on peut retrouver l'analogue de cet effet à grande portée d'un inhibiteur, par exemple sous la forme de l'élasticité d'une matrice sur laquelle les cellules migreraient, et l'équivalent ou l'analogue de cette boucle autocatalytique viendrait en fait des forces de traction générées par les cellules qui, modifiant par exemple la matrice autour d'elles, orientent ou guident de façon active la migration des cellules au voisinage d'une instabilité transitoirement créée pour l'amplifier. Donc on retrouve finalement les mêmes composantes hein, de boucles de rétroaction positive et d'inhibition à longue portée de nature purement mécanique. Et on retrouve ainsi donc des motifs de Turing ou Turing-like. Alors aujourd'hui, nous allons voir qu'on peut retrouver cela dans des modèles différents. On avait un cas de modèle purement élastique. On va voir maintenant, pour commencer, celui d'un fluide actif ou d'un gel d'actomyosine. Nous avons eu l'occasion de voir dans mes cours précédents combien ces gels d'actomyosine sont ubiquitaires dans les cellules et combien ils sont importants. Alors, il convient de voir déjà, en partant de notions très élémentaires, sur le fait que la variation temporelle de la concentration du molécule, l'intérêt qu'elle soit, myosine par exemple ou actine, peut s'écrire évidemment en termes de variation spatiale du flux, flux qui lui-même peut se décrire de façon très générale comme ayant deux composantes, une composante dispersive liée à la diffusion, qu'on retrouve donc ici à gauche avec le coefficient de diffusion, et un terme d'advection qui vient en fait du transport des molécules, c'est avec une certaine vitesse d'écoulement. D'accord ? Donc on voit que les diffusions vont avoir un effet qui va en fait lisser les fluctuations qui peuvent se produire de façon transitoire, alors que l'advection va avoir plutôt tendance à amplifier les instabilités créées. On voit un signe différent ici, donc avec un feedback mécanique. Et on peut donc d'ici de façon graphique représenter ce que je viens de dire, au sens où si transitoirement il y a une instabilité, une fluctuation qui augmente localement par un activateur, nous verrons plus en détail plus tard, la diffusion aura tendance en fait à annuler ou à lisser en fait cette fluctuation, alors que le terme d'advection va avoir tendance à l'amplifier. Donc on va voir ces deux tendances opposées et on peut définir un nombre sans dimension, le nombre de Peclet, du physicien Eugène Peclet, qui caractérise en fait le rapport entre le taux de transport par advection, où L est une longueur caractéristique, en fait la longueur hydrodynamique que l'on verra tout à l'heure, U, une vitesse, et divisé par le coefficient de diffusion, d'accord, micron carré par seconde, dans les deux cas. Donc ce nombre de Peclet, en fait, qui peut varier suivant les configurations, définit la contribution de cet effet en fait, agrégatif par advection ou d'un effet dispersif par diffusion. Alors commençons par un cas simple, celui par exemple du cortex d'une cellule, comme la cellule du nématode Caenorhabditis elegans, qui dans les premiers stades de sa vie organise un flux le long d'un axe antéro-postérieur de cette cellule. Alors en fait, nous avons ici une cellule qui fait en gros 50 microns de long. Vous voyez ici en violet la concentration de myosine qui forme un gradient de concentration. Vous avez ici une section moyennée le long de l'axe antéro-postérieur où l'on voit que myosine 2 a donc une forte concentration dans la partie antérieure qui en fait diminue vers la partie postérieure. Et vous voyez en vert ici des petites flèches qui sont en fait l'analyse du flux. Je n'ai pas le film pour le montrer, vous le verrez plus tard. Le flux, l'écoulement en fait, de ce gel d'actomyosine qui en fait, est dirigé vers la partie gauche, la partie antérieure, Et on voit que les vitesses en fait, sont maximales au pôle postérieur et chutent vers la partie antérieure. Il y a donc une anticorrélation entre les deux gradients. Cela peut s'expliquer très bien dès lors qu'on écrit les lois qui régissent la dynamique du système. Pour commencer, les conservations de masse, donc là on retrouve exactement les choses que l'on a vues avant, c'est-à-dire que la variation temporelle de la concentration dépend du gradient du flux, le flux qui lui-même a une composante de diffusion et une composante d'advection. Je l'ai déjà dit, je n'y reviens pas. Et à droite, vous avez les équations constitutives dans lesquelles on peut voir déjà que le stress, les contraintes dans le système ont une composante active qui correspond en fait à l'activité motrice du moteur myosine 2 sur les filaments d'actine. Et on retrouve ici delta mu, c'est la variation du potentiel chimique qui vient en fait de l'activité liée à l'ATP, l'hydrolyse d'ATP du moteur, et qui dépend de la concentration donc, du moteur, C, et puis une constante. Et également une composante visqueuse qui vient en fait la résistance à la compression, dv sur dx, variation de vitesse, le long de l'axe x en une dimension par exemple, et puis le terme de viscosité. Donc on va retrouver ces deux composantes, composante active et composante visqueuse, dans un gel qui s'écoule. Et enfin, cet élément important, qui dès qu'il y a écoulement, la vitesse de l'écoulement est reliée au gradient de contrainte en fonction d'un terme qui simplement sont les frictions, friction avec la membrane, friction avec l'environnement dans lequel se situe cet écoulement, le cytoplasme par exemple. D'accord ? Donc ces paramètres, viscosité et friction, nous allons les retrouver à différents moments. Et donc, à partir de ce type d'équation, on peut tout à fait expliquer la vitesse d'écoulement du gel lactomyosine en fonction des gradients de contractilité, de distribution de myosine 2. Alors, une première étude montre comment on peut créer des motifs, des instabilités spatiales dans ce type de modèle de gel d'actomyosine, régi, comme je viens de le dire, par un flux avec une composante de diffusion et d'advection liée à l'activité du moteur. On retrouve ici exactement ce que j'ai dit avant, la composante active des contraintes, plus le terme visqueux. Et enfin, l'existence de friction dans ce réseau. Il s'agit d'un système qui, lorsque l'on fait l'analyse de stabilité linéaire, comme je l'ai expliqué la dernière fois, identifie dans les matrices d'évolution du système les valeurs propres qui ont cette forme un peu barbare, mais regardons simplement ce terme-là. Parce qu'en fait, vous vous souvenez, l'instabilité viendra si ces valeurs propres ont une valeur positive. Et donc, on voit bien que ça dépendra de la valeur de ce rapport par rapport à 1. Que voit-on dans ce rapport? On voit en particulier, tout d'abord, le nombre de Pclès, c'est-à-dire la part de l'advection par rapport à la diffusion dans la dynamique du système. On voit par ailleurs cette variation de F de C0. De quoi s'agit-il? En fait, on peut écrire les contraintes actives, ici, donc qui correspondent à l'activité motrice du moteur et les contraintes actives qu'elle génère dans le réseau, qui sont dépendantes d'une constante, une valeur de référence, et d'une dépendance à la densité de myosine 2. Plus il y aura de myosine 2, ce que dit cette équation, plus ces contraintes seront importantes, ce qui est assez intuitif, et de fait, qui est vrai. Plus la concentration du moteur est importante, plus son état d'activation est important, plus les contraintes actives vont être importantes. Et donc, on a donc une valeur positive pour cette fonction. Et donc, voilà donc cet élément important. Donc, c'est ce terme-là qu'on retrouve dans ce quotient. Et l'on voit bien ici qu'il y a, pour que cette valeur propre soit positive, et donc que ce rapport soit supérieur à 1, il faut que les contraintes actives qui créent un écoulement doivent s'opposer en fait. Alors, que voit-on dans ce nombre de Pclès? Ben, évidemment, la résistance, l'opposition de la diffusion. Plus la diffusion est importante, plus le nombre de Pclès va être faible. D'accord? Donc, plus ce terme va être faible, il faudra donc le compenser par un terme d'amplification du stress en fonction de la concentration de myosine 2 plus importante. Donc, il y a un effet d'antagonisme entre l'augmentation des contraintes liées à la concentration du moteur et l'effet dispersif de la diffusion, d'accord, qui joue au dénominateur du nombre de Pclès, et également, comme on a L ici, la longueur hydrodynamique, les forces de friction, enfin la contribution de la friction. Donc pour résumer, on voit ici que l'instabilité, okay, vient ici d'une compétition entre l'effet autocatalytique d'amplification du stress actif par la concentration du moteur de myosine 2 et l'effet que lui oppose la friction avec l'environnement et l'effet de la diffusion, ce qui est assez intuitif. Et l'on voit ici de façon quantitative comment ces valeurs propres en fait, évoluent, d'accord, à mesure que le nombre de Becquerel augmente. On voit ici la forme des courbes, et en particulier que les valeurs deviennent très positives si le nombre de Becquerel est plus important. Et ici, dans ce diagramme de phase, on voit très bien que les instabilités appartiennent, émergent dans cette partie du diagramme dès lors que le nombre de Becquerel est plus important. Voilà, donc ici, retenons simplement l'idée que dans ce gel actif dans lequel il y a des contraintes actives et un effet de friction et de diffusion, c'est la force de l'effet amplifié des contraintes actives liées à la concentration de myosine 2 qui va jouer un rôle déterminant par rapport aux forces de diffusion et aux effets de la diffusion et à l'effet de la friction dans les réseaux. Donc ici, on retrouve finalement, encore dans un gel, dans un système hydrodynamique, des instabilités qui émergent avec un activateur local, on va dire, qui va être le stress actif dépendant de la concentration de myosine 2, et un effet d'inhibition à longue portée qui vient en fait des frictions. Plus les frictions sont importantes, plus ces instabilités seront difficiles à générer et les longueurs d'onde plus courtes. Alors voyons maintenant comment, à partir de cette même notion, on peut commencer à voir émerger des instabilités temporelles. Alors ici, nous allons décrire, c'est ce que fait cette étude du laboratoire de Stefan Grief et Frank Kulischer, maintenant deux composantes chimiques, A, un activateur, et I, un inhibiteur. Donc finalement, on a les mêmes choses qu'avant, une composante de diffusion, une composante d'advection, avec l'activateur et l'inhibiteur respectivement. D'accord ? Donc D va être le coefficient de diffusion de l'activateur, et alpha D, celui de l'inhibiteur. On trouve exactement ce que j'ai décrit précédemment, la composante visqueuse et active des contraintes. Et encore une fois, on peut écrire le stress actif comme dépendant de la concentration du moteur de myosine 2. D'accord ? Et ici, pour des raisons qui vont devenir apparentes plus tard, on peut écrire cette fonction sous la forme d'un terme de référence et de quelque chose qui dépend de la concentration de l'activateur et l'inhibiteur, avec un paramètre qu'on peut décrire comme un paramètre d'asymétrie bêta pour la raison suivante. D'accord ? Si bêta est entre moins 1 et 1, on voit bien que A et I sont tous les deux des activateurs du système, dans le sens où FC, d'accord, va être positif et va, ces deux termes, 1 plus bêta et moins bêta, vont dans un régime où A et I vont avoir des effets positifs. D'accord ? Si en revanche bêta est supérieur à 1, on voit bien que A est un activateur et I est un inhibiteur. Donc on verra l'importance parce que je vous montrerai un diagramme de phase où bêta intervient. D'accord ? Ce sont des commodités parce que l'étude se veut très générale et va montrer, suivant les configurations, dans quelles conditions va-t-on avoir des instabilités temporelles. On verra que notamment les oscillations émergent à partir du moment où bêta est supérieur à 1. En fait, nous le voyons tout de suite. Donc ici, on a un diagramme de phase dans lequel on a ici le nombre de Becquerel, qui encore une fois décrit la composante d'advection, la part de l'advection par rapport à la diffusion, qui joue des effets opposés. Et on a ici, en abscisse, bêta, ce paramètre asymétrique. Donc regardons dans les configurations où bêta est inférieur à 1, dans lesquelles A et I sont les activateurs. Bon, en fait, nous avons deux régimes. Un régime homogène, pas très intéressant, où le système n'est pas activé. Et puis, au-delà d'un certain seuil, d'accord, d'une certaine valeur du nombre de Becquerel, où l'advection est suffisamment importante par rapport à l'effet annulateur de la diffusion, à ce moment-là, on a des instabilités qui apparaissent, c'est-à-dire les gros agrégats d'actomyosine. D'accord ? En revanche, et dans ce cas-là, A et I sont tous les deux des activateurs. Mais voyons maintenant le cas où bêta est supérieur à 1. C'est précisément, d'après cette équation, les conditions dans lesquelles A sera un activateur et I sera un inhibiteur du système. Donc on a deux espèces qui ont des effets antagonistes sur l'activation du stress actif. Parce que FC, c'est la fonction qui décrit comment le stress actif dépend de la concentration du moteur myosine 2. D'accord ? Donc, par exemple, pour ceux qui voient activateur-inhibiteur, nous allons voir plus tard que l'activateur de myosine 2 s'appelle par exemple Rho, la petite molécule GTPase Rho1 qui active le moteur myosine 2 indirectement. I peut être un inhibiteur, par exemple une phosphatase du moteur, ou ça peut être une kinase et une phosphatase. Toutes ces molécules existent et sont de fait advectées, transportées par le système. Alors on voit que quand bêta est supérieur à 1, donc dans le cas où on a un activateur et un inhibiteur, on voit d'après ce diagramme de phase l'émergence en fait d'un régime en rouge qui est un régime d'oscillation, au-delà duquel on a de nouveau les instabilités spatiales qui apparaissent. Donc ces instabilités temporelles, ces oscillations sont extrêmement importantes. Voyons qualitativement comment elles émergent. Imaginons, donc on est dans cette configuration ici, où on a un nombre de Peclet de 1,3 à peu près. Ce nombre de Peclet est suffisamment important, qui dit qu'il y a donc une part de l'advection plus importante que la diffusion, vu qu'il est supérieur à 1. Et on est dans un cas où on a un activateur et un inhibiteur, bêta supérieur à 1. Si l'on regarde la dynamique au cours d'une demi-période, admettons qu'il y ait transitoirement une concentration locale de l'inhibiteur en rouge plus faible que celle de l'activateur. Bah, naturellement, cela va donner une valeur positive au stress actif et donc donner naissance à un écoulement, montré en bleu avec le signe, qui va concentrer localement et l'activateur et l'inhibiteur, qui sont advectés. On les voit apparaître ici. Donc on a concentration locale de l'activateur en vert et de l'inhibiteur, d'où l'apparition de ces pics de concentration. Mais comme, et c'est là une condition importante, si le coefficient de diffusion de l'inhibiteur et de l'activateur sont différents, d'accord, si l'inhibiteur a un coefficient de diffusion plus faible, à ce moment-là, le pic de l'inhibiteur va être plus important que celui de l'activateur. Et donc il va dominer par rapport à l'inhibiteur, ce qui va donner en fait un feedback négatif qui va inhiber le stress actif localement, en noir, modifier l'écoulement, et donc petit à petit faire baisser le stress, et le système en fait s'annule. En fait, on a disparition complète de cette instabilité temporelle, on a donc bien une oscillation. Donc vous voyez ici que les conditions d'apparition de ces oscillations, c'est un régime dans lequel bêta étant supérieur à 1, on a bien un activateur et un inhibiteur, et de surcroît, on spécifie dans le système que les coefficients de diffusion sont différents, d'accord, qui dépendent en fait de ce terme alpha qui compare le ratio des coefficients de diffusion de l'inhibiteur par rapport à l'activateur. Et c'est dans ces deux conditions en fait, où en fait on peut voir comme un coefficient de relaxation en fait lié à la diffusion de l'inhibiteur et de l'activateur qu'on a ces instabilités temporelles. Donc voilà une première condition analysée dans cet article. Une autre qui est en fait une variation sur le thème et que je présente plus rapidement décrit maintenant le fait que le turnover, en fait, la cinétique de turnover de l'activateur et de l'inhibiteur sont différentes, et en particulier que celui de l'activateur est plus important, plus rapide que celui de l'inhibiteur. Le temps de résidence de l'inhibiteur dans le réseau, par exemple, est plus important que celui de l'inhibiteur, et qui, en fait, de façon analogue, produit, au-delà d'une certaine valeur de bêta, hein, qui en décrit encore la symétrie du système, l'effet différent de l'activateur et de l'inhibiteur, au-delà d'une certaine valeur du nombre de Peclet, une instabilité temporelle. Et on voit ici, en particulier, dans les simulations numériques, l'apparition de ces motifs de concentration. Alors pensez à myosine 2, par exemple, hein, et toutes les molécules qu'ils activent, et le fait que c'est une situation transitoire, pour des raisons analogues, qualitativement, à ce que l'on a vu précédemment. Donc finalement, excusez-moi, la référence est fausse. Je me suis trompé ici. C'est la même référence que ici. Je corrigerai dans la diapositive avant de la mettre sur le site. D'accord ? Donc, on voit ici une deuxième condition dans laquelle les instabilités temporelles apparaissent, que je résume ici. La dynamique pulsatile émerge à partir du moment où on a un couplage entre activateur et inhibiteur, et en particulier l'effet de par diffusion ou par temps de résidence, turnover différent de l'activateur et l'inhibiteur, diffusion plus importante pour l'activateur que pour l'inhibiteur, ou temps de résidence plus court pour l'activateur que pour l'inhibiteur, l'effet sera qualitativement le même, c'est-à-dire qu'il donnera naissance à une instabilité temporelle. Alors, on peut compliquer, ou en tout cas rendre plus réaliste la description de ces modèles, en prenant en compte non pas simplement la dépendance du stress actif à la concentration du moteur, qui est fondée expérimentalement, mais également des paramètres d'ordre. On sait bien que les moteurs sont des structures bipolaires qui peuvent s'orienter dans l'espace et qui donc, s'orientant, peuvent jouer en fait sur le stress actif. Je mentionnerai une étude qui le fait et qui permettrait d'enrichir et de voir les contributions d'autres formes de non-linéarité dans la dynamique de ces systèmes. Alors maintenant, après avoir vu donc des systèmes purement hydrodynamiques de gel d'actomyosine, voyons maintenant la contribution de l'élasticité en plus de la viscosité. Donc une description viscoélastique. Donc là, la référence est la bonne. Et vous voyez ici donc une description du système dans lequel, donc, d'abord, un petit réseau, on a une composante active, ce qui correspond au moteur myosine 2, on a une tension dans le réseau élastique, et puis une composante visqueuse. Et en raisonnant en une dimension et en disant qu'il y a turnover des composants. En fait, ici, cette équation décrit le fait que Alors, si jamais la quantité de molécules, s'il n'y a pas de turnover, ce terme est évidemment égal à zéro, et en réécrivant ça, on obtient donc la contribution du turnover, ou tau, et cette constante de temps pour le turnover des différents composants. Et aussi, on a les composantes cinétiques K-on, K-off, décrites en fonction de ce paramètre. Et maintenant, on réécrit aussi donc, les contraintes, l'équilibre des forces, avec les forces extérieures au système, TE, d'accord, qui équilibre une composante visqueuse, les forces contractiles qui dépendent du moteur myosine 2, de sa concentration, et maintenant les forces élastiques, K, qui dépend donc de la longueur de ce réseau. Alors, on peut déjà vérifier expérimentalement, dans un cas, donc, il s'agit de l'amniocéreuse, un tissu dorsal de l'épiderme de la drosophile, dans lequel des pulsations d'actomyosine existent. On peut voir ici les variations de concentration du moteur myosine 2 en bleu par rapport aux variations d'air, qui sont donc anticorrélées, parce que plus de myosine 2 contracte la surface et donc la réduit. Et on peut voir ici, en substituant à L l'air, on peut réécrire cette équation et prédire une relation linéaire entre ce terme, d'accord, qui décrit la variation de l'air en fonction de la concentration, et puis la concentration par rapport à une concentration de référence de myosine 2. Et on prédit d'après cette équation en fait, une relation linéaire avec une pente qui va en fait, déterminer tau. Et on mesure ici un temps caractéristique de 63 secondes. D'accord ? Donc en fait, cette étude qualitative indique que ce type d'équation du système semble adéquat en fait, pour décrire la dynamique de ces cellules. Alors ici, donc on a donc ces forces qui s'équilibrent, et une analyse de stabilité linéaire en fait, identifie des solutions où en fait, la tension liée à la concentration du moteur myosine 2 s'écrit en fonction d'une valeur de référence et d'une tension, un petit terme T1, on va voir l'importance plus tard, en fait, qui décrit en fait, comment cette tension évolue dès lors que la concentration du moteur s'écarte de la valeur à l'état stationnaire C0. Disons que le système aime être à un état de référence dont la longueur est 0 et la concentration de myosine 2 est de C0. Et dès lors qu'on va se déplacer par rapport à cet état stationnaire, il va y avoir une modification de la tension, de même qu'il va y avoir une modification de la tension élastique, d'accord, la force élastique, plus exactement ici, valeur de référence, et puis un terme qui décrit avec K1 la raideur du système. Et on peut montrer qu'il y a une bifurcation, c'est-à-dire l'apparition d'oscillations au-delà d'un seuil, d'accord, qui dépend en particulier du rapport entre deux constantes de temps, mu sur K1, d'accord, qui correspond en fait à un temps de relaxation du système en raison de la viscosité par rapport à l'élasticité du réseau, ce rapport à une dimension d'un temps, d'accord, et puis tau, qui est en fait le turnover du système. Alors voyons en fait pourquoi on a une instabilité dans ce régime. Dès lors que le réseau en fait, modifie sa longueur, et modifie en particulier sa concentration par rapport à la valeur C0. T1 va avoir un effet de concentration en fait, du moteur qui va induire en fait, un feedback dans le système, augmentant la tension, et qui va donc s'auto-amplifier. Et cet effet va être donc opposé par la résistance visqueuse du système. D'accord ? Et il y a un temps caractéristique associé à ça, qui est donc ce temps de relaxation ou temps de retardation, mu sur K1. D'accord ? Qui dépend en fait des contributions respectives de la viscosité, d'accord, et du paramètre d'élasticité du réseau, d'accord. Mais il y a aussi un autre temps caractéristique qui joue un effet, lui, de feedback négatif dans la mesure où le turnover de myosine 2 par rapport dans le réseau va tendre à restaurer la concentration C0 et il le fera d'autant plus vite que ce turnover est rapide et en restaurant la concentration C0 annulera en fait l'effet d'accroissement de la tension en raison de l'augmentation locale de la tension de la concentration du moteur. Donc cet effet en fait va se traduire avec un délai qui est en fait le temps caractéristique du turnover et donc on a donc une compétition entre ces deux effets et donc c'est pour ça que les oscillations apparaissent au-delà d'une valeur de référence où on a 1 plus mu sur K1 tau. Donc dans le diagramme de phase ici, on voit ici donc mu sur K1 tau. On a ici cet autre terme, cet autre rapport, et on voit donc une ligne, ce sont des simulations, hein, qui définissent donc, cette transition entre un état stable, d'accord, où le système n'évolue pas de façon particulièrement intéressante, Puis au-delà de cette valeur seuil, on a des oscillations qui apparaissent, dont la période est d'autant plus grande qu'on augmente T1, d'accord ? Et puis après, au-delà d'un certain seuil, on a des instabilités spatiales qui apparaissent, on n'a plus d'oscillation. Donc là, on retrouve encore dans un cas viscoélastique des conditions qui permettent l'émergence d'instabilités temporelles et qui défendent de l'effet de compétition entre l'effet d'amplification de la tension en raison de la concentration de myosine 2, mais l'effet inhibiteur, ou en tout cas de rétroaction négative, lié en fait au turnover des composants du système, avec un temps caractéristique qui sera mesuré en fonction du temps en fait, caractéristique de la relaxation du système en raison de sa viscosité. Donc on voit ici que le régime d'oscillation dynamique émerge à partir du moment où les contractions liées à l'activité du moteur myosine 2 dominent les résistances visqueuses et le turnover du moteur. D'accord ? Alors, je mentionne maintenant un article qui, pour ceux qui sont intéressés de creuser, reprend toutes ces descriptions tout en ajoutant des éléments importants en termes de non-linéarité qui décrit notamment le stress actif, pas simplement en fonction de la densité du moteur, ça nous l'avons vu dans différentes études, mais également des paramètres d'ordre. Autre type de non-linéarité, l'énergie élastique, en fait, va être fonction des densités respectives du moteur myosine 2 et de la densité d'actine. Et troisième non-linéarité intéressante, toute fondée en fait expérimentalement, hein, c'est le fait que le turnover de myosine 2, dont on a vu qu'il joue un rôle important dans ce type d'instabilité, notamment dans l'étude juste précédente, peut être lui-même une fonction de choses comme, par exemple, la déformation. On sait bien que les moteurs, tous les moteurs, et en particulier moteur myosine 2, nous l'avons vu l'an dernier, dans le dernier cours sur l'an dernier sur la tension corticale, que tous les moteurs ont cette propriété de stabilisation, leur cycle, leur duty ratio en fait est lui-même modifié par les déformations du réseau dans lequel ils sont situés. En fait, un moteur en fait va être stabilisé dès lors qu'on lui tire dessus, si on veut dire trivialement. Donc, cet paramètre-là peut être décrit dans les équations du système. On retrouve les mêmes équations, mais en fait, on va dire que tout dépend de toutes les composantes de stress en fait vont dépendent de tous ces paramètres, et donc, bien sûr que ça complique le système, mais cette étude montre que l'on peut étudier les dynamiques du système, et je vous montre simplement un résultat parmi nombreux autres. Dans ce diagramme de phase où on décrit en fait l'élasticité, les contraintes élastiques par rapport aux contraintes actives, et on voit qu'on peut transiter entre un état finalement stable, où il n'y a rien du tout, et petit à petit l'apparition d'oscillations dans le régime en bleu ciel, ici, puis apparition d'ondes de trigger wave, d'ondes progressives, donc des régimes plus complexes que ce que je vous ai simplement montré jusqu'à présent, c'est-à-dire de combinaisons d'instabilité spatiale et temporelle, et enfin l'apparition d'instabilité spatiale dans lesquelles il n'y a plus de dynamique temporelle. Donc en fait, il y a une très grande richesse de dynamique. Et finalement, je voulais simplement vous mentionner cet article pour vous montrer que, à décrire en fait le système comme un gel viscoélastique, une description juste de ces réseaux, à décrire ce type de non-linéarité toute soutenue par des données expérimentales, on peut voir apparaître tout un régime de dynamique spatiale et temporelle extrêmement importante qui permet de décrire adéquatement ce qui passe dans une cellule. Et la suite du cours et les cours de la prochaine fois, auront l'occasion de montrer clairement ces cellules ayant des dynamiques pulsatiles, des écoulements, des ondes aussi d'activation à travers le tissu, et les cellules et le tissu. Donc, voilà ce qui clôt en fait la description d'instabilité mécanique. Alors, ce faisant, vous avez vu qu'on a quand même décrit les activateurs et les inhibiteurs, leur advection dans le réseau, donc on a déjà finalement entamé à ce qui va être maintenant une description, alors plus basée sur des données expérimentales, des instabilités mécanochimiques dans lesquelles on va voir plus précisément ce système fonctionner dans les cellules et au cours du développement. Donc, je voudrais, en termes de la chimie qui va nous concerner, et pour l'incarner en termes de réseau d'actomyosine, rappeler finalement et donner un nom finalement à ce que pourrait être cet activateur et cet inhibiteur dont j'ai parlé. Donc, on a ici le mini-filament de myosine 2. Alors, je montre tout de suite ce qu'est un mini-filament de myosine 2. Donc, myosine 2, vous le savez peut-être, ici, en microscopie électronique, on peut voir une structure bipolaire de quelques centaines de nanomètres qui a une stoichiométrie qui varie suivant les espèces, mais qui typiquement peut être de l'ordre d'une bonne dizaine de filaments bipolaires. Alors en fait, à l'origine, on a un filament, une chaîne lourde, une chaîne légère régulatrice et une chaîne légère constitutive, qui moyennant activation par différentes molécules, on va surtout parler aujourd'hui de Rho, qui est une petite GTPase ubiquitaire de la levure à l'homme, et qui, entre autres, active des kinases, qui par phosphorylation de la chaîne régulatrice, en orange, va induire un changement de conformation de ce dimère de chaîne lourde, chaîne légère constitutive, chaîne régulatrice, et permettre aussi, moyennant l'action d'autres kinases, la formation de filaments bipolaires. Voilà. Donc le point important est que l'activation de ce filament bipolaire, qui maintenant a une affinité pour l'actine, nous l'avons vu l'an dernier, il devient même processif, alors que le monomère est intrinsèquement non processif, donc a un temps de vie sur l'actine extrêmement court. Ce filament bipolaire, en fait, a un duty ratio collectif, si vous voulez, qui permet son affinité pour l'actine plus importante, et concrètement, le stress actif dont je parlais. Donc le stress actif qui vient à la combinaison d'actine et myosine 2 dépend de l'activation de la myosine 2, et cette activation et cette concentration, en fait, dépendent de ces activateurs. Et retenons, par exemple, pour faire simple, ρA. Donc ici, on a une autre façon de représenter cela, un petit diagramme dans lequel on a cet activateur ρGTP. Alors ρ1, comme toutes les petites GTPases, existe sous deux formes. Vous savez peut-être, une forme GDP inactive et une forme GTP active. Ce sont deux types de molécules, une GEF qui produit la conversion de la forme GDP en GTP et une GAP, une protéine qui va enlever un groupement phosphate. Et donc, on a donc l'existence de cette molécule sous deux formes. La forme active GTP peut activer tout un grand nombre de molécules en aval, en particulier pour ce qui nous concerne, une molécule diaphanous, une formine qui va produire la polymérisation de filaments non branchés d'actine, et en parallèle, l'activation de la kinase ROCK qui phosphorile la chaîne régulatrice de myosine 2, ici, et induire la formation du minifilament. Et en même temps, elle va inhiber l'inhibiteur de cette réaction, ça barre la phosphatase. Donc activer la kinase, inhiber la phosphatase, l'effet conjugué est le même, on va concrètement augmenter la concentration de myosine 2 phosphorylée et donc augmenter la concentration de minifilaments bipolaires actifs ayant une forte affinité pour l'actine et ayant un duty ratio maintenant important et permettant donc de générer ce stress actif. Donc vous vous souvenez dans les études théoriques précédentes où je montrais que le stress actif était fonction d'une concentration de myosine 2. F de C. F de C, finalement, décrit de façon mathématique cette réalité-là, c'est-à-dire qu'il y a un effet de l'activation de myosine 2 et des contraintes actives dans le réseau qui vient évidemment dépendre de la concentration de la forme active du moteur. Donc C, on peut le voir même comme la concentration du moteur sous sa forme active. Donc effectivement, l'action conjuguée de ces deux choses, et encore une fois, nous l'avons vu l'an dernier, pour ceux qui sont intéressés de revoir les détails de comment le stress actif émerge de ces interactions, on voyait le cours numéro 6 de l'an dernier, début décembre. Et donc on voit ici un patch de membrane, le cortex composé de filaments d'actine et de moteur myosine 2, ainsi que des crosslinkers passifs en rouge. Et au bout d'un certain temps, l'action du moteur va, par exemple, produire une déformation du réseau compressive dans ce cas-là. Et donc, on peut décrire ce petit réseau comme ayant une tension élastique résiduelle liée en fait, aux interactions entre filaments, et puis une composante visqueuse qui dépend en fait, simplement du turnover de ces composants actine, filaments d'actine, les crosslinkers passifs, et également myosine 2 lui-même. Voilà qui replace les éléments en tête. Donc maintenant, revenons au cas de ces élégances, de cet embryon dont je vous ai montré un écoulement. Alors on voit en fait que l'écoulement, c'est une façon assez moyennée, lissée, on va dire, de décrire l'écoulement de myosine 2, mais on peut regarder plus en détail et voir que dans cet écoulement de la partie postérieure vers la partie antérieure, on a également des agrégats, on va dire des instabilités spatiales, et de surcroît, si l'on analyse finement la concentration de ces agrégats au cours du temps, ce qui peut se voir dans cette analyse à droite, on voit en fait une oscillation, c'est-à-dire que la densité de myosine 2 en violet, en rose à gauche, et évolue au cours du temps. Donc le point important, c'est qu'on a une oscillation temporelle de myosine 2. On peut aussi analyser l'évolution temporelle de la concentration de ρGTP, la forme active de ρ. Un certain nombre d'études que je vais présenter maintenant le montreront. Comment visualiser la concentration de ρGTP ? Simplement, en prenant une molécule qui n'est pas montrée ici, qui s'appelle aniline, qui a une très forte affinité pour ρGTP, et qui en gros est un cross-linker d'actine, en prenant un petit domaine qui se lie avec forte affinité avec ρGTP, on prend ce petit domaine, on lui fusionne GFP, et la GFP en fait, va se retrouver concentrée à l'endroit où ρGTP est situé. Et on a ainsi un senseur, un biosenseur, très efficace de la concentration de ρGTP. De nombreuses études l'utilisent, et j'aurai l'occasion de réutiliser. Donc on va pouvoir suivre, au cours du temps, la concentration de l'activateur ρGTP et la concentration du moteur myosine 2. D'accord ? Donc de A, l'activateur, et de C, le moteur moléculaire. Alors, dans cette très belle étude, les auteurs vont justement analyser dans ce genre d'embryon l'évolution temporelle de la concentration, par exemple, de myosine 2. Et en fait, ils vont étudier deux espèces, myosine 2 et ρGTP, et analyser l'évolution également il y a une composante en fait qui est liée aussi à l'advection, c'est-à-dire le transport de cette molécule, qui va générer soit par concentration une évolution de la concentration, soit par translation une évolution de la concentration dans une petite boîte. Donc en fait, les auteurs décrivent ce type de dynamique de concentration de myosine 2 et de ρGTP, et à partir de ces réactions, ils peuvent donc en déduire, en calculer des paramètres cinétiques de réaction, c'est-à-dire, qu'entend-on par réaction ? Bah, précisément, les interactions réactives entre ρGTP et myosine 2. On sait que ρ est un activateur de myosine 2. Voilà des choses que l'on ne connaît pas a priori, mais que l'on peut déduire de la dynamique spatiale et temporelle de l'évolution de la concentration de ces molécules. Et donc, en particulier, on va voir dans le diagramme suivant des vecteurs, d'accord, qui représentent dans un diagramme de phase d'évolution de concentration de myosine 2 et de ρGTP les termes de la réaction de l'un par rapport à l'autre. D'accord ? Donc voilà en fait ce diagramme. On a ici la concentration de myosine 2, ici la concentration du moteur ρGTP. D'accord ? Et analysons pour commencer la configuration, comme on l'a vu la dernière fois, mais pour d'autres espèces, dans lesquelles l'évolution de la concentration de ρGTP est nulle. C'est-à-dire que d ρGTP sur dt égale 0. D'accord ? Cette ligne en fait, verticale, d'accord, dans lesquelles la concentration n'évolue plus, on voit qu'elle est complètement... Alors voilà la concentration de ρGTP correspondante. On voit qu'elle est totalement indépendante de la concentration du moteur myosine 2. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que la concentration de ρGTP est totalement indépendante de myosine 2. D'accord ? En revanche, on voit bien que la condition pour laquelle myosine 2 n'évolue plus sa concentration, sa variation au cours du temps est nulle, d'accord, c'est cette ligne, d'accord ? Alors, les données expérimentales ici et un modèle qui permet de les obtenir, elle-même dépend très clairement de la concentration de ρGTP. Ce qui indique, en d'autres termes, cette chose connue des biochimistes, c'est que ρGTP est un activateur de myosine 2. D'accord ? Et le point pour lequel les deux évolutions de concentration sont nulles, et ici, c'est l'état stationnaire. Et on voit les trajectoires dans ce plan, dans lesquelles, par exemple, commençons par une faible concentration de myosine 2 et une forte concentration du ρGTP, il y a une augmentation de la concentration de myosine 2, d'accord, et petit à petit, une évolution vers ce point stationnaire où la concentration de myosine 2 ρGTP va être stable. Voilà finalement le résultat d'un phénomène d'agrégation où la concentration de deux espèces va arriver à un état stationnaire. Alors, le même type de modèle que l'on a vu précédemment, que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans lequel on va avoir encore une fois une composante de diffusion, une composante d'advection, etc. On retrouve également une longueur hydrodynamique lambda pour décrire ce système. Le point important, c'est que l'analyse de stabilité linéaire, où en fait on part avec ce cas de figure où ρ active myosine 2, d'accord, comme on l'a vu précédemment, et myosine 2 est capable d'enrichir ρ par advection, c'est-à-dire qu'il va transporter ρGTP et concentrer cette molécule localement. Si l'on fait cette étude de stabilité linéaire, on peut montrer dans ce diagramme de phase où l'on représente la tension active en ordonnée et la longueur hydrodynamique lambda en abscisse, on voit en fait un régime d'instabilité apparaître ici. Les valeurs propres sont positives, en rouge, et les données expérimentales montrent que le système est bien dans cette configuration d'instabilité, où on forme des agrégats, et on les voit bien in vivo. Donc en fait, le modèle permet de retrouver cette chose vu de l'expérience, où on a finalement des instabilités spatiales qui apparaissent. Ces agrégats de Mösing 2 que vous avez vus dans le film tout à l'heure. Maintenant, avec ce modèle, on peut modifier maintenant les règles d'interaction, et en particulier faire disparaître l'activation de Mösing 2 par Rho, qui est pourtant une donnée expérimentale. Et toutes choses égales par ailleurs dans le modèle, on voit à ce moment-là le système sort maintenant et dans la partie stable du système, on a des valeurs propres qui sont négatives. Et on voit ici les données expérimentales qui montrent en particulier, de façon intéressante, que lorsque l'on inhibe Mösing 2, l'activation de Mösing 2 par Rho, d'accord, par cette RNAi, à ce moment-là, ce diagramme montre très clairement que, vous voyez, voici la pente qui montrait la dépendance de l'état stationnaire de la concentration de Mösing 2 en fonction de Rho. Et on voyait qu'il y avait cette dépendance importante. Eh bien, dans ce cas d'inhibition de Mösing 2 par Rho, on voit bien que la pente est fortement baissée. Alors, elle n'est pas nulle, sans doute, parce que les conditions ne sont pas nulles pour l'inactivation de Mösing 2 par Rho. Il y a cette activation résiduelle. Mon pointeur ne marche plus. Si on peut m'en apporter un nouveau, ça serait formidable. En tout cas, vous voyez ici donc une baisse de la pente, ce qui veut dire que, donc, effectivement, expérimentalement, le système répond conformément à ce que le modèle décrit, ou le modèle décrit adéquatement ce que l'on retrouve expérimentalement. Mais ce qui est remarquable, c'est que autant on peut donc retrouver une bonne description de l'état d'instabilité spatiale d'actomyosine dans ce système, néanmoins, ce que l'on ne voit pas apparaître dans le réseau, dans ce modèle, ce sont les pulsations, c'est-à-dire ce régime d'oscillation temporelle de Mösing 2, qui néanmoins, souvenez-vous dans la diapositive précédente, était très, très clairement observé. Donc, le modèle, n'étant pas capable de rendre compte de cette dynamique, il lui manque quelque chose. Voilà, en fait, une utilité en fait, d'un modèle, c'est quand justement il faillit. Et le point important, c'est qu'effectivement, les auteurs montrent que l'oscillation de Rho-GTP, en fait, est intrinsèque. Elle est indépendante du moteur Mösing 2. Elle est constitutive, si vous voulez. Dans ces cellules sauvages, on voit donc l'oscillation de Rho-GTP en vert, et l'on l'observe ici lorsque l'on inhibe Mösing 2 en vert, Rho-GTP, visualisé par la GFP, forme toujours des agrégats et de surcroît qu'ils sont oscillants. Vous pouvez voir que n'importe quel de ces agrégats apparaît, puis disparaît, puis réapparaît à un autre endroit, etc. Donc le système, les instabilités temporelles, les oscillations, sont constitutives de Rho-GTP. Elles ne sont pas une donnée du système émergeant des interactions entre Rho et Mösing 2, par exemple par leur rétroaction, advection de Rho par l'écoulement que génère le moteur Mösing 2. Donc il va falloir décrire dans ce système, le modifier en apportant et en modélisant, par exemple, une oscillation constitutive de Rho-GTP venant de l'extérieur, donc on le rend comme une donnée au système, mais qui n'émerge pas naturellement de ces interactions. D'accord ? Et à partir de ce moment-là, dans les simulations, on voit effectivement apparaître des oscillations de Mösing 2, ce qui est tout à fait naturel. Et on peut aussi modifier les paramètres de ce modèle, en particulier renforcer cette réactivation positive par flow, par exemple, en réduisant la longueur, la vitesse d'advection, et voir par exemple que dans ces simulations, elles créent une instabilité spatiale, avec des dynamiques spatiales temporelles par rapport à ce cas extrêmement régulier qu'on observe si le flow est plus lent. Et expérimentalement, donc on voit ici des données sauvages dans lesquelles ce n'est pas certes aussi régulier que dans les simulations, mais l'on voit en revanche que dans les conditions qui réduisent la longueur hydrodynamique, qui passe de 14 à 9 microns, d'accord, on a un écoulement de vitesse plus importante et on a des instabilités extrêmement importantes qui apparaissent, qui ne sont pas sans rappeler ce que l'on observe dans les simulations. Donc les auteurs ont conclu que finalement, moyennant cette description en fait, d'une oscillation de Rho qui est extérieure à la dynamique d'interaction entre Rho et le moteur Mösing 2 qui l'active, on trouve des dynamiques qui, qualitativement, ressemblent à ce que l'on observe expérimentalement dans des conditions sauvages et perturbées pour l'écoulement. Donc finalement, maintenant, ce qui est important, c'est de dire d'où viennent ces oscillations de Rho-GTP, qui sont ici apportées au système pour décrire la dynamique, d'où viennent-elles ? Et donc on va voir maintenant que la description et l'émergence de ces oscillations de Roger TP, en fait, peuvent se décrire en termes de systèmes, justement, on va dire, excitables, dans lesquels on va retrouver, dans ce réseau, exactement les paramètres que j'ai décrits tout à l'heure, que j'ai rappelés en introduction et que nous avons vus la dernière fois, à savoir une boucle de rétroaction positive d'activation de Roger TP et une rétroaction négative avec un délai, c'est-à-dire qui est plus lente. Donc on retrouve ici la description que je vous ai faite précédemment, avec un changement de couleur néanmoins, où on voit en vert l'actine et en rouge, myosine 2. D'accord ? Voyons ici un patch que l'on suit au cours du temps. On voit donc une période entière d'activation de Roger TP et d'activation de myosine 2. Cette analyse quantitative extrêmement fine permet de voir en particulier le décalage dans le temps de l'activation de Roger TP en premier, suivi de l'activation d'actine et ensuite de myosine 2. Les auteurs montrent en fait des caractéristiques d'un système excitable, en particulier le fait qu'il existe un seuil d'activation à dépasser pour générer cette dynamique. Et on voit ici, à partir de données expérimentales, comment le taux de variation, alors AHPH, il s'agit de ρGTP. D'accord ? Ça, c'est le nom technique expérimental. Pensez ici à la concentration de ρGTP, ici à sa variation temporelle. Vous voyez qu'il y a une dépendance positive de cette variation de la concentration de ρ en fonction de la concentration de ρ. Donc il y a un effet rétroactif, il y a un effet d'activation positive. La deuxième chose, c'est qu'il y a un effet de seuil. Ici, les auteurs inhibent ρ, donc l'activateur de myosine 2, et ils le font pendant une durée plus ou moins longue. Et on voit ici, donc, entre jusqu'à 10 heures, il y a encore un régime oscillant, mais tout d'un coup, le système en fait, chute complètement. On a ici une analyse quantitative qui montre un régime pulsatile jusqu'à une inhibition de 8, 9, 10, 11, 12 heures, et à partir de 12 heures, qui correspond en fait à une déplétion plus profonde de ρ, et donc une inactivation plus importante, tout d'un coup, en fait, il n'y a plus de pulse dans le système. Donc, il semble indiquer que le système, au-delà d'un certain seuil d'inhibition de ρ, il n'y a pas de modification de la période, même si ce n'est pas mesuré ici, des oscillations, mais il y a simplement une chute complète de la dynamique du système. Il n'y a plus d'oscillation, donc indiquant l'existence d'un seuil. Le point aussi important, nous l'avons vu, donc confirmation ici, c'est que la pulsation de ρ en vert est totalement indépendante du moteur myosine 2. Lorsqu'on élit myosine 2, ici, ρGTP est encore pulsatile, on a ici la carte spatiale et temporelle d'évolution où on voit des pulsations. Alors leur forme n'est pas tout à fait normale, mais la pulsation est toujours présente, et on le voit très clairement ici dans cette courbe, l'analyse d'image et la quantification pour un pulse. L'autre point, c'est qu'ici, les auteurs caractérisent en fait cette rétroaction négative et la raison de son délai. Ce délai en fait, vient précisément du recrutement d'une GAP, un inhibiteur de ρGTP, d'accord, qui est recruté, en fait, on voit ici l'évolution de sa concentration en noir, donc on avait ici ρGTP en violet, et l'apparition de myosine 2 en orange, et conjointement, en fait, on voit l'apparition de la GAP, donc de l'inhibiteur de ρGTP. Et ce qui est très frappant, alors on voit ici les images, hein, l'évolution de la concentration de la GAP par rapport à la concentration de la myosine 2, et ici sa quantification. Et on voit très bien que l'apparition de la GAP coïncide avec la baisse de concentration de ρGTP. D'accord ? Donc on va voir tout d'abord ici que l'inhibition complète de... alors RGA, ce sont donc ces deux GAP, on en inhibe deux en même temps, induit en fait une espèce d'activation constitutive, il n'y a plus de pulsation, une activation très large dans tout le système. Donc il s'agit bien d'une GAP et dont l'activité est nécessaire pour l'apparition de ces instabilités temporelles. Ce qui est intéressant, c'est de quelle façon cette GAP est recrutée. Elle est recrutée par le réseau d'actine. On voit ici le réseau d'actine et on voit la localisation de cette GAP, RGA3, avec une bonne colocalisation, une analyse pixel par pixel qui montre en fait une bonne corrélation sur un pulse sur son ensemble du cortex de la concentration de l'actine par rapport à cette GAP. Donc finalement, on est dans un cas où ρ activant la formine, les filaments d'actine vont recruter la GAP et comme les filaments d'actine vont être concentrés par l'activité d'advection de l'actine par l'activité contractile, en fait, il va avoir une concentration locale, mais avec un délai lié au recrutement séquentiel de la GAP par l'actine une fois une densité suffisante de la molécule. On a donc ce délai qui induit cette feedback négatif. Et on voit ici donc, les données fonctionnelles, le fait que quand on dépolymérise l'actine avec cette drogue, l'atrinculine A, on dépolymérise l'actine, donc on a dans le temps ici l'effet, on perd l'actine, on perd conjointement la GAP qu'elle recrute et avec laquelle elle colocalise, D'accord. Et regardez la dynamique maintenant de Myosin 2 et de Roche TP. Tous deux sont présents, sans oscillation, à très fort niveau. Donc là, on voit bien l'effet inhibiteur de la gap. Enfin, en tout cas, l'inhibiteur, l'actine joue un rôle de feedback négatif, mais par l'intermédiaire de la gap qu'elle recrute. Donc le modèle que proposent les auteurs est un dans lequel on a l'activation donc, de Rho-GTP par une GEF. L'effet conjugué du GEF et de la GAP module la concentration locale de Rho-GTP. Mais une fois une concentration suffisante de Rho-GTP, on active donc le moteur myosine 2 et l'actine. Et la densification du réseau d'actine, en raison de tous ces phénomènes que nous avons vus précédemment, recrute à une concentration suffisante la GAP, qui va donc inhiber le système. Et c'est pour ça qu'on a un délai dans cette rétroaction négative et pourquoi le régime oscillant en fait, apparaît. Donc dans ce papier que je vous invite à lire, il y a également une des simulations numériques qui montre comment, en rentrant les paramètres, notamment expérimentaux, on retrouve le type de dynamique observée expérimentalement. Il s'agit d'un travail remarquable qui conjugue de très bonnes données expérimentales, extrêmement quantitatives, conjointement à un modèle qui n'est pas analysé théoriquement comme d'autres études que j'ai montrées, mais qui néanmoins fait une interface plus proche des données expérimentales par des simulations numériques. Voilà, cette étude faite dans le laboratoire de Edwin Munro à Chicago. Donc, nous avons vu maintenant toute une série de dynamiques spatio-temporelles vues théoriquement au début, maintenant expérimentalement, et pensons donc à un réseau d'actomyosine. Alors on va voir maintenant qu'il y a des dynamiques donc, spatiales, temporelles, comme nous l'avons vu, et également des dynamiques de vagues, de trigger wave, comme on l'a vu la dernière fois pour, dans les cas chimiques de propagation d'activité, qu'on a vu purement chimique, on peut les voir maintenant dans les réseaux d'actomyosine. Alors on voit ici un film qui montre le cortex d'un embryon de xénope, où les données seront indifféremment de xénope ou d'étoiles de mer, starfish. Et on voit ici la dynamique de l'actine, marquée par deux sondes, LifeAct et Eutrophine, qui ont des temps de résidence sur l'actine différents, qui permettent de voir, donc déjà, si vous regardez ce film, clairement une dynamique spatiale, on voit une espèce d'onde, des vagues plutôt d'activité à travers la cellule. Bon, il y a une évolution au cours du temps liée au fait que la cellule va se diviser, que des paramètres changent dans la cellule, mais on voit bien qu'il y a à l'avant de la vague, notamment LifeAct, qui se lie très rapidement à l'actine, suivie par Eutrophine. Alors, déjà, les auteurs montrent que cette dynamique dépend de notre activation Rho-GTP. On peut utiliser une GEF, l'inhiber par ses dominants négatifs, ou par un inhibiteur de Rho, C3, et on voit cette dynamique. Alors, on a ici un chymographe, hein, l'espace et le temps. On voit donc ainsi les vagues latérales qui s'écoulent, et également la dynamique temporelle. D'accord ? Et bien, l'inhibition sous ces deux formes inhibe complètement l'activité spatio-temporelle de l'actine. Inversement, lorsque l'on active constitutivement la ROGEF en la surexprimant, qui est un paramètre très, très sensible quantitatif du système, on voit maintenant des instabilités beaucoup plus prononcées que dans le cas sauvage. Vous voyez l'importance de ces concentrations de myosine 2 par rapport de l'actine par rapport au cas sauvage. Donc les auteurs vont souvent utiliser cette forme un peu qui sensibilise le système, qui augmente la période des oscillations ainsi que la concentration, l'amplitude de concentration d'actine et de myosine 2, comme nous allons le voir, par la surexpression de la GEF. Mais clairement, le système répond d'une façon très sensible à la concentration locale de Rho. Donc quand on regarde le réseau, d'accord, on retrouve le même réseau avec Rho-GTP et F-actine, et on peut voir au cours du temps, comme autour de, dans l'espace comme dans le temps, des instabilités spatiales et temporelles. On voit ici le chymographe, on voit donc au cours du temps ces oscillations, dans l'espace des instabilités spatiales, et les deux conjugués des vagues d'activation latérale. On peut voir ici donc en section, hein, à travers ce diagramme, l'existence d'oscillations de l'activateur d'actine et de Rho-GTP. Donc les auteurs vont étudier les deux. À droite, vous voyez en fait les analyses d'évolution de la concentration de Rho, du taux de variation par rapport à la concentration de Rho, qui montrent une augmentation de l'un par rapport à l'autre, comme nous l'avons vu avant dans Célégance, et qui est donc l'indicateur en fait, d'une rétroaction positive, donc un positive feedback. On voit également l'apparition d'une dépendance de la variation de l'actine en fonction de Rho. C'est-à-dire que Rho active l'actine, Alors, je dis qu'il y a un délai parce que, effectivement, comme nous allons le voir, F-actine joue un rôle inhibiteur dans le système. On le voit. À mesure que la concentration d'actine augmente, le taux de variation de rho diminue. Donc, on a bien un négatif feedback. Et le délai vient en fait de cet intermédiaire, c'est-à-dire que l'inhibition de rho se fait par l'activation d'actine. Donc, on a tous les éléments en fait d'un système excitable où on a un positif feedback, on a un délai et on a un feedback négatif qui dépend d'actine. Les données expérimentales montrent qu'en perturbant en fait la concentration d'actine, on modifie la dynamique du système. Ici, les auteurs apportent donc un inhibiteur d'actine. Et on voit ici l'augmentation très importante de la concentration. Alors, c'est par une pipette qui est située ici. Et on voit à proximité de la pipette la concentration extrêmement importante de rho en même temps que l'inhibition de l'actine. Donc, ça paraît en vert. En faisant une expérience avec une concentration moindre d'inhibiteur d'actine, on voit non pas une saturation de rho et d'inhibition d'actine, mais on voit tout d'un coup l'apparition d'amplitudes de fluctuations plus importantes et de longueurs d'onde modifiées. On voit ici le film. Vous voyez ce qui se passe et qui vient clairement de la partie exposée à la pipette. Donc là, une expérience qualitative, mais enfin qui montre très clairement l'effet inhibiteur de l'actine sur la dynamique de rho, donc cet effet rétroactif qu'indiquaient les analyses corrélées de concentration et de taux de variation de l'un par rapport à l'autre que je vous ai montré dans l'image précédente. Donc on est bien dans un système où, de nouveau, alors dans trois systèmes différents, hein, on a vu trois systèmes, donc si on a vu en trois systèmes, peut-être qu'on peut généraliser à tous les systèmes, dans lesquels ce réseau d'activation rho-GDP-rho-GTP est sujet à un feedback loop dont les mécanismes ne sont pas décrits, je tiens à le préciser, et un feedback négatif qui, dans le cas de Seligans, dépend d'une gap, en tout cas du recrutement d'actine, de la polymérisation d'actine. Dans le cas que je viens de présenter, les auteurs ne décrivent pas encore les raisons de ce feedback. Alors, il est fort à parier que les mécanismes moléculaires de ce feedback peuvent varier, ça peut être une gap, ça peut être d'autres molécules, mais le point important, c'est vraiment le comportement qualitatif et l'existence de ces deux feedbacks positifs et négatifs et l'existence d'un délai entre les deux, dont la concentration d'actine est en fait le médiateur. On a donc vu des systèmes biochimiques excitables existent et qu'ils ont un impact, ils entraînent avec eux un réseau d'actomyosine, parce que rho-GTP induit une modification de myosine 2 qui va avoir un effet sur le réseau d'actomyosine. D'accord ? Donc là, on est dans un cas où on a une espèce d'entraînement d'un réseau contractile par un oscillateur rho-GTP qui dépend en fait simplement d'une amplification ou par le recrutement d'actine. D'accord ? Mais on n'a pas d'effet à proprement parler mécanique, vu que simplement on a une concentration d'actine qui joue sur la concentration locale d'un inhibiteur du système, à savoir la gap. D'accord ? Mais il y a des façons plus explicites de voir des feedbacks maintenant de nature proprement mécanique. Je mentionne les références et les indique en passant, comme cela, ceux qui sont intéressés peuvent creuser cela. Tout d'abord, il peut y avoir une modification de la cinétique d'échange de myosine 2 avec le filament d'actine en fonction de la tension. Un certain nombre d'études l'indiquent, que j'ai mentionné là. Il peut y avoir également un effet de la tension dans le réseau sur l'assemblage et le désassemblage des filaments d'actine. On peut aussi avoir un effet de la tension sur l'activation de myosine 2. Théoriquement, il n'y a pas de référence que j'ai trouvée ici, mais il conviendra d'être attentif à cette possibilité. Et enfin, un cas plus développé dans lequel il y a une advection des régulateurs du système, c'est-à-dire ces molécules représentées ici, rho, etc., par l'écoulement du réseau d'actomyosine que nous avons bien vu précédemment. Et je cite déjà les articles dont on a parlé, ce papier théorique, ce papier expérimental et théorique, et un article que je vais maintenant décrire rapidement, qui vient de notre équipe, qui montre chez la drosophile, alors le même oscillateur, rho-GTP, myosine 2, actine, d'accord ? On peut voir ici le type de dynamique de ces cellules épithéliales, d'accord ? Et voyez par exemple ici l'évolution temporelle de la concentration de myosine 2, on voit ici l'apparition d'un agrégat qui est temporaire, d'accord, qui disparaît après. Les périodes d'oscillation sont typiquement de l'ordre de 100 secondes, comme chez Seligans, de façon remarquable. Et on peut suivre maintenant la concentration de rho-GTP par le même senseur que décrit précédemment. On peut voir encore une fois l'agrégation, puis la disparition, avec une périodicité également d'une centaine de secondes, et les deux oscillent en même temps, en phase. Alors, ce que nous avons pu montrer, c'est le fait que la formation d'un pulse se fait effectivement par une phase de recrutement, d'advection centripètes de tous les régulateurs. On voit ici myosine 2 qui s'agrège au centre, d'accord. Et l'augmentation de la concentration du myosine 2 ne vient pas simplement d'une densification, mais également d'un recrutement plus important de la myosine 2 qui existe de façon très large dans un espèce de le bain de la cellule, de cytoplasme de la cellule. Donc il y a un effet de concentration dans le plan, comme nous allons le voir, et un effet de recrutement très important à partir du réservoir qui est dans le cytoplasme. Et donc, les études d'écoulement, enfin de vitesse de distribution de l'actine et de myosine 2 et de tous les autres composants du système, positifs comme ROCK, la kinase, négatives comme la phosphatase, l'actine, etc., les corrélations dans les vecteurs d'écoulement de toutes ces molécules montrent une très très forte corrélation positive qui montre, qui est en fait l'indicateur du fait qu'il y a une advection de tous ces composants de tout le réseau, qu'on en a vu, avec les filaments d'actine sous l'action du moteur myosine 2. Alors, ce qui est remarquable, et à la différence de ce que je vous ai montré précédemment chez C. elegans, c'est que l'inhibition du moteur myosine 2 bloque complètement les oscillations de ROGTP dans ce cas-là. Donc on n'est pas dans un cas où on a un oscillateur constitutif qui entraîne une dynamique du myosine 2, on a plutôt un cas où en fait, les oscillations de ROGTP sont entraînées par rétroaction par l'action du moteur myosine 2. Et typiquement, en raison de la coadvection de tous les composants dans le système, nous pensons par l'advection des régulateurs. On peut voir donc, de façon plus fine, donc voilà finalement cette boucle de rétroaction. Je ne sais pas si elle est rapide, ça c'est une omission, je devrais l'enlever. En tout cas, il y a une rétroaction positive. Et on voit ici, en superposant beaucoup de pulses, une analyse de divergence qui montre en fait qu'il y a bien convergence de tous les composants. Alors ici, c'est myosine 2, également de l'actine vers le centre moyenné de plusieurs pulses. Et quand on inhibe l'activation du moteur myosine 2, et bien, effectivement, on perd toute cette dynamique d'agrégation de tous les composants d'actine et de myosine, etc. Donc, une façon de décrire ce système, c'est de caractériser par les flèches violettes l'agrégation centripète de tous les composants du système en raison de l'activité motrice. C'est centripète pour les mêmes raisons que j'ai présentées précédemment dans le cortex de C. elegans. À partir du moment où il y a une flux au-delà d'un certain seuil d'activation, il y a un gradient local qui va advecter des composants, amplifier localement la concentration des molécules et leurs molécules plus en aval. Et donc tout le réseau s'auto-amplifie de façon non linéaire. On peut montrer quantitativement la non-linéarité dans cette activation. Ce qui n'est pas clairement caractérisé dans ce cas-là, c'est l'apparition du négatif feedback. Alors à la lumière des études théoriques montées précédemment, notamment l'effet antagoniste d'un activateur et d'un inhibiteur et des conditions dans lesquelles celle-ci génère une pulsation, ça peut venir par exemple de coefficients de diffusion différents de l'inhibiteur par rapport à l'activateur. Pensez en particulier à la phosphatase par rapport à la kinase, ou alors par l'existence du recrutement d'une gap avec un feedback, avec un délai, comme c'était montré chez C. elegans. Clairement, on n'a pas encore identifié cette gap. Et je pense qu'il y a au moins une chose à retenir, c'est qu'il y a de multiples façons d'introduire ce régime oscillant. J'en ai montré plusieurs depuis le début de ce cours. Et donc, il s'agit de voir les différentes modalités par lesquelles cette instabilité apparaît, plutôt que de voir un mécanisme unique. Et évidemment, dans l'évolution, toute une diversité de situations peut être explorée en fonction des cas. Voilà, donc voici ce qui clôt la partie dynamique des réseaux d'actomyosine à la lumière des études théoriques que j'ai pu présenter précédemment. Vous avez donc en tête au moins un schéma central que je résumerai tout à l'heure, mais également, c'est-à-dire d'interaction avec des rétroactions positives et négatives et des délais possibles, que les mécanismes par lesquels cela est réalisé sont divers et qu'on commence maintenant à voir se formuler, à la lumière des données expérimentales et des études théoriques, un schéma général que j'ai résumé ici. J'aimerais maintenant rapidement quand même évoquer les situations d'instabilité observées dans les réseaux d'actine pure, parce qu'ils ont, ont une part importante dans la littérature, et permettent de voir une variation dans l'émergence de systèmes excitables. Alors, c'est une étude qui, à l'origine, expérimentalement, a été caractérisée par O'Ryan Weiner, donc à UCSF, qui montre que sur la partie très basale de cellules en contact avec le substrat, et en faisant de l'imagerie TIRF, on peut voir ici un composant du complexe WAVE, où on voit HEM1 et on voit en fait ici cette molécule qui a une dynamique très intéressante. Vous voyez ici avec en code de couleur différents temps Et on voit donc que la molécule forme comme des arcs qui, en fait, se propagent telle une onde sur la base des cellules. Et je vous indique cette revue extrêmement bien faite de Alex Mogilner et son collègue John Allard, qui montre en fait de quelle façon on peut générer des systèmes excitables au-delà du cas bien connu et qu'on a documenté d'un système par diffusion qui réalise ce couplage spatial dont nous avons parlé la dernière fois. Le couplage spatial potentiellement peut aussi être réalisé par des stress mécaniques en fait, qui permettent de coupler spatialement dans la cellule. Souvenez-vous ce qu'on avait vu l'an dernier sur la tension corticale, la tension de membrane comme mécanisme de couplage à grande distance dans différentes régions de la cellule et à grande vitesse. Voilà. Donc on peut élargir en fait, le modèle de trigger waves en pensant comme modalité de couplage spatial, pas simplement la diffusion, mais également des contraintes. Et je voudrais rapidement vous citer des études qui montrent la pertinence de ces deux façons de voir les choses. Alors, dans le cas de l'étude de Weiner, les auteurs montrent très clairement que la molécule a un temps de recyclage très rapide à la membrane. En faisant du frappe, la molécule revient très vite. Et si, là, en revanche, on dépolymérise l'actine avec l'intrinculine A, le retour est complètement bloqué. Donc, en fait, l'actine joue un rôle important dans la dynamique du système. Donc, ce n'est pas, en fait, une translocation de la protéine par transport, mais c'est vraiment... On est dans une situation où on a un échange extrêmement rapide avec le cytoplasme, entre le cytoplasme et le réseau d'actine. Et donc, les ondes que l'on voit viennent en fait d'une dynamique du système liée à son recrutement différentiel, et l'actine joue un rôle important ici. Alors, on peut voir une caractéristique très évidente d'un système excitable, c'est le fait que quand deux ondes rentrent en collision l'une de l'autre, en raison de l'existence d'une période réfractaire, vous vous souvenez de la dernière fois, le fait que l'inhibiteur est présent et qu'il faut un certain temps pour le faire disparaître, deux ondes en fait, vont s'annihiler l'une de l'autre. On le voit très clairement dans cette image et le film à droite, où on a une onde qui va vers la droite, l'autre qui va vers la gauche, et rentre en collision, en fait, elle s'annule. D'accord ? Donc ça, c'est une caractéristique très visible d'un système excitable. Et les auteurs maintenant poursuivent l'analyse de l'effet inhibiteur de l'actine, en particulier la déstabilisation des filaments d'actine dans ce film clairement bloque, augmente la concentration locale de HEM1, qui sature en fait, qui ne disparaît pas, et la disparition des ondes. Et inversement, en stabilisant les filaments d'actine, la dynamique est également perdue, mais on a une baisse de la concentration de HEM1 par rapport au cas sauvage. On a ici les quantifications, hein, inhibition de l'actine, baisse de la vitesse de propagation, et saturation du système. Donc on a véritablement dans une configuration où les molécules du complexe ARB2-3, du complexe WAVE en fait diffusent, d'accord, et leur dynamique de recrutement dépend en fait d'un effet du réseau d'actine avec un effet inhibiteur du filament d'actine. Alors dans ce système excitable, on voit une propriété intéressante, c'est que lorsque l'on apporte un obstacle à la migration d'une cellule, hein, ces cellules en fait ont ces espèces d'ondes ou de vagues plus exactement d'activation de la polymérisation d'actine extrêmement dynamique. Lorsqu'une cellule rencontre un obstacle, il va y avoir en fait une disparition très rapide et locale de la polymérisation d'actine au profit d'une autre partie de la cellule où la cellule va continuer à migrer. Donc on peut voir ici que cette stratégie de trigger wave pour la polymérisation d'actine est très adaptative au sens où elle répond en fait à des paramètres de l'environnement et on peut le voir physiologiquement, permet à une cellule de se frayer un chemin par rapport aux obstacles, par rapport, donc voilà une structure auto-organisée, donc adaptative, qu'on peut contraster avec ce que serait en fait un modèle extrêmement déterministe venant d'une molécule extérieure qui, s'il n'agissait pas par auto-organisation, en fait, serait sans doute moins adaptative. Voilà, quelque chose que... on peut en tout cas suggérer à partir de ce type de comportement. Donc, une autre étude, et la dernière sur ce sujet, montre dans un autre type de cellule une phénoménologie très semblable. Je vais aller plus rapidement, mais on voit en fait en périphérie d'une cellule étalée une dynamique de la bordure de la cellule par rapport à l'actine et une anticorrélation de l'un par rapport à l'autre. Donc ici, on a des corrélations temporelles, ici des corrélations spatiales. Il importe de voir que temporellement comme spatialement, la cross-corrélation de l'actine par rapport à la vitesse dynamique de la bordure de la cellule sont anticorrélées. D'accord ? On voit ici les chymographes qui montrent cette dynamique, donc les données expérimentales à partir de lesquelles ces quantifications sont faites. Et les auteurs maintenant décrivent un modèle qui est tout à fait conforme à ce qu'on a vu, où on a l'activateur de la polymérisation d'actine qui joue un effet rétroactif avec un délai sur l'activation d'actine. Alors en fait, dans ce modèle, les auteurs décrivent l'activateur de la polymérisation A, qui donc modifie la concentration des extrémités barbées des filaments d'actine, B, d'accord ? Et les filaments d'actine qui dépendent de la concentration des extrémités barbées d'actine. Et dans ce modèle, on peut voir ici un effet non linéaire autocatalytique nécessaire à un système excitable, donc qui représente en fait cette boucle ici, où le taux de variation de A dépend du carré de la concentration de A. Et puis, cette description de l'effet rétroactif négatif des filaments d'actine, où au-delà d'une concentration seuil de filaments d'actine, on va avoir une inhibition de la variation de l'activateur. Et donc, les auteurs font un certain nombre de simulations qui, qualitativement, reproduisent bien la phénoménologie observée expérimentalement, et puis notamment l'étude de cross-corrélation qui montre en fait une dynamique semblable. Donc voilà encore une dernière étude qui, formellement, s'apparente beaucoup à ce qu'on en a pu voir précédemment, mais dans un cas très simple où on a simplement polymérisation d'actine et on n'a pas des vagues de propagation d'actomyosine, mais simplement de polymérisation d'actine, dans un contexte qui n'est pas celui de la régulation de la contractilité cellulaire et dont vous savez bien qu'elle joue un rôle important dans la morphogénèse, mais plutôt de polymérisation d'actine qui, comme vous le savez aussi, joue un rôle très important dans la motilité cellulaire, autre stratégie utilisée par les cellules au cours des processus morphogénétiques. Voilà, motilité cellulaire, contraction cellulaire, deux modalités dans lesquelles on voit s'auto-organiser des dynamiques spatiales, temporelles et spatio-temporelles dans lesquelles on retrouve ce même réseau. Alors, voilà qui reposait, encore une fois, sur un couplage spatial dépendant de la diffusion de régulateurs d'actine. Je vous disais, en référence à la revue d'Alex Mogilner, la possibilité d'un couplage spatial mécanique. Alors, les données expérimentales, il n'y en a pas beaucoup, pour être tout à fait honnête. Il y a néanmoins une étude in vitro qui montre, en tout cas, la faisabilité, la plausibilité de ce scénario. Il s'agit d'un système qui est à des échelles peut-être non physiologiques, parce que vous voyez qu'on a plusieurs dizaines de microns, mais en organisant la polymérisation d'actine sur des substrats, donc c'est l'équipe de notre collègue Laurent Blanchoin à Grenoble, ces auteurs ont montré que moyennant l'activité de moteurs, myosine 6 ici ou myosine 2, on peut voir apparaître en fait des collapses, des destructions locales du réseau d'actine au-delà d'une certaine concentration et d'un certain temps. Donc on a assemblage, désassemblage complet, en tout cas local, du réseau d'actomyosine. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde en détail la dynamique de ce système, on voit en fait des ondes, enfin des vagues plus exactement. On peut voir ici en chymographe, c'est-à-dire une propagation spatiale et temporelle de cette dégradation du réseau d'actine, qui semble indiquer en tout cas que dans un système in vitro, l'activité motrice de myosine 2 et le stress actif qu'elle induit dans le réseau, au-delà d'un certain seuil, peut casser des filaments d'actine, induire leur désassemblage, donc par feedback négatif, qui se propage dans le temps et l'espace selon un mode qui ressemble à une trigger wave. On dirait dans ce cas-là que le couplage spatial nécessaire à ce régime de trigger waves est celui en fait, qui utilise la tension qui se propage à l'intérieur de la cellule. Alors ici, il ne s'agit pas d'une cellule, il s'agit d'un substrat in vitro. Il reste à montrer si dans des configurations in vivo, la tension d'un moteur peut générer ce type d'instabilité spatio-temporelle. Donc, potentiellement, toute une série de modalités de couplage spatial nécessaires à l'émergence d'ondes d'activation d'un réseau d'actomyosine ou de polymérisation d'actine. Cette diapositive se veut un résumé de choses dites la dernière fois et dites aujourd'hui. Donc elle revêt une certaine importance. L'auto-organisation de systèmes mécanochimiques, on peut en dégager un certain nombre de principes. Donc les systèmes mécanochimiques donnent naissance à des dynamiques spatiales temporelles, des formes d'instabilité très variées. Nous avons vu donc des instabilités spatiales, nous avons vu des instabilités temporelles, des régimes oscillants, nous avons vu leurs effets conjugués sous forme de trigger waves, pensez au réseau d'actomyosine, chez les embryons d'étoiles de mer, de xénopes. On le trouve aussi chez les embryons de drosophiles, je ne les ai pas montrés. Et donc voilà une très grande gamme de dynamiques possibles. On peut décrire des systèmes Turing-like qui vont reposer sur des amplifications autocatalytiques de ces réseaux et du stress actif généré par le moteur myosine 2. Les modalités selon lesquelles cette auto-activation autocatalytique se produit sont diverses, peuvent être conjuguées. On peut citer l'advection des composants qui concentrent les activateurs et donc qui va augmenter la concentration de myosine 2. Pensez à cette fonction F2C dans la description du stress actif précédemment. On peut voir aussi les effets non linéaires liés à l'effet de déformation de la matrice, alors le réseau d'actine, ou du moteur myosine 2. Par exemple, quand on tire sur un moteur, les propres contraintes qui génèrent dans un réseau induisent des déformations qui vont le stabiliser. Donc là, il va y avoir un effet non linéaire qui participe au processus d'auto-activation de la tension, du stress actif. Et puis également, j'en ai peu parlé dans les réseaux d'actine, bien que ça ait été étudié en tout cas de façon théorique et aussi en partie expérimentale dans le cas de la cytokinèse où les filaments d'actine s'orientent sous l'effet du moteur. Il y a cet effet d'orientation, en fait, lui-même peut rentrer dans une description de l'évolution du stress actif en fonction donc, des paramètres d'ordre du réseau d'actomyosine. Et j'ai ajouté ECM, matrice extracellulaire. Pour ceux qui étaient là au cours précédent ou qui l'ont vu ou qui vont le voir, j'ai décrit la dernière fois, à une échelle complètement différente, donc là de plusieurs centaines de microns, comment des cellules s'agrégeaient en gros agrégats, et combien les études théoriques avaient identifié, pour rendre compte de ce phénomène autocatalytique, d'un effet de guidage, strain guidance, tel que décrit en anglais, par lequel en fait, les tractions exercées par la cellule sur la matrice viscoélastique sur laquelle elle se situait orientent la matrice qui joue un effet d'amplification de l'agrégation, un effet antidiffusif agrégatif. Finalement, on voit à une autre échelle le même type de phénomène que celui que jouerait l'orientation des filaments d'actine par l'action du moteur, d'accord, mais à des échelles complètement différentes. Donc c'est intéressant de voir que les études théoriques peuvent décrire à des échelles différentes le même type de phénomène, à savoir un effet autocatalytique par déformation de la matrice, que ce soit le réseau d'actine ou le gel, non pas d'actine, mais le gel de la matrice extracellulaire très complexe. Voilà. Ça, c'est pour l'effet autocatalytique qui est nécessaire à l'émergence de ce type d'instabilité Turing-like. Et également l'effet à grande portée et inhibiteur dans ces réseaux, qui peuvent prendre la forme, qui peut dépendre de l'élasticité du réseau, comme on l'a vu, des frictions dans les modèles d'écoulement, également de la diffusion, et bien sûr de leur effet conjugué, à des échelles de temps qui varieront. Donc on voit ici encore une fois la grande diversité par lesquelles en fait les cellules peuvent utiliser des activations rétroactives positives et des inhibitions à longue distance pour générer ce type d'instabilité spatiale. Pour ce qui concerne les systèmes excitables biochimiques, on voit encore une fois cet effet autocatalytique et la nécessité que la rétroaction négative soit avec un délai. En plus de cela, il faut un couplage spatial pour qu'apparaissent des ondes d'activation. Alors, par exemple, sous la forme de la diffusion d'une molécule, on en a vu différents exemples, et donc il conviendra dans les études d'analyser typiquement la diffusion des espèces impliquées dans l'activation, RhoGTP, ses propriétaires. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de données expérimentales sur ces paramètres de diffusion. Et puis, dans les systèmes mécaniques, le couplage spatial peut être de nature purement mécanique, potentiellement. On peut voir ici la possibilité de propager à très grande distance, potentiellement, s'il n'y a pas de friction en particulier, et donc de permettre dans ce cas-là une propagation, un couplage d'activation des cellules. Et vous verrez à la fin du cours prochain, qui aura tout autre sujet, revenir ce genre de considération. D'accord ? Et évidemment, les couplages mécanochimiques sont extrêmement importants, nous l'avons vu abondamment aujourd'hui, et dans lesquels les paramètres d'advection du système ainsi que de turnover des régulateurs du stress actif jouent un rôle très important. Et finalement, si l'on veut voir d'une façon un peu unifiée l'ensemble de ces dynamiques, on voit apparaître deux notion très importante qui est en fait qu'il y a des longueurs caractéristiques, des temps caractéristiques qui dépendent de tous les processus considérés. Les temps caractéristiques peuvent être ceux du turnover, peuvent être ceux de la diffusion, ceux de l'advection de ces différents systèmes, et leur effet conjugué introduit des temps caractéristiques qui vont jouer un rôle important, par exemple pour expliquer l'émergence ou non d'un feedback négatif avec délai, et donc les types de dynamique spatiale. Et on voit donc apparaître ici qu'au cours de l'évolution, comme on le sait bien, les systèmes explorent les différents paramètres de contrôle. Et les paramètres de contrôle vont être tous ceux qui vont jouer sur ces longueurs et ces temps caractéristiques, qu'ils soient de nature chimique, de nature mécanique ou d'effet conjugué. Et donc finalement, on peut voir par ces approches théoriques, c'est pour ça que j'ai choisi de m'arrêter un peu dessus, à la lumière des données expérimentales et des études théoriques, on voit apparaître d'ailleurs une diversité de phénoménologie, une diversité de systèmes, des paramètres de contrôle finalement en nombre plus limité qui permettent donc d'introduire dans les systèmes toute une gamme de comportements d'oscillations spatiales et temporelles ou spatio-temporelles. Il me reste pour finir pendant quelques minutes de présenter, pas du tout de façon exhaustive, parce que les deux cours prochains seront vraiment l'étude développementale à une échelle plus macro, de comment en fait ces types de dynamiques se retrouvent dans l'embryon et dans différents cas. J'ai déjà fait en partie en vous présentant l'embryon d'étoiles de mer, de xénobe, de drosophile. Mais j'aimerais finalement élargir un tout petit peu cela en vous présentant par exemple, et c'est un phénomène nouveau, finalement il y a une vingtaine d'années les gens étudiaient tel organisme ou tel autre et il n'y avait aucune étude comparative qui permettait de voir avec un regard unifié ce qui se passait dans ces cellules et dans ces organismes. Aujourd'hui, on peut regarder la dynamique d'un embryon précoce de Cenobitis d'Arabditis elegans, ici, ou de drosophile, même si les échelles de temps et d'espace sont radicalement différentes. Ici, on a 50 microns, ici, on a 500 microns. Ici, on a quelques minutes, alors qu'ici, on a quelques dizaines de minutes. Donc, il y a, en échelle de temps et d'espace, un ordre de grandeur au moins différent qui les caractérise. Néanmoins, si l'on regarde dans le cortex de ces cellules, ici grandes cellules, ici beaucoup plus petites cellules, regardez ici, dans le cortex, on a ici des agrégats qui sont typiquement de l'ordre du micron, qui sont des agrégats d'actomyosine dont on a parlé. On a montré en particulier qu'ils étaient oscillants, c'est ce que montre ce schéma ici. Et dans les cellules à peine discernables sur ce film à droite d'un embryon drosophile, chaque point vert correspond à un noyau et donc grosso modo à une cellule. Chaque cellule fait typiquement de l'ordre de quelques microns de largeur et il y a des agrégats d'actomyosine qui également ont une taille caractéristique de l'ordre du micron. Les oscillations dans ces deux systèmes sont aussi du même ordre de grandeur, à peu près une centaine de secondes. Donc on voit dans les systèmes différents une dynamique de comportement très similaire. Et d'ailleurs, lorsque j'ai parlé des dynamiques spatio-temporelles de nature mécanochimique des réseaux d'actomyosine, j'ai utilisé des exemples qui empruntaient au développement de Selegans et de la drosophile. Alors plus précisément, et encore une fois, les deux cours prochains auront l'occasion d'approfondir l'effet macroscopique de ces comportements cellulaires, ou plutôt comment on relie un comportement cellulaire tel que dicté par ces phénomènes auto-organisés d'actomyosine et la dynamique macroscopique à l'échelle du tissu. Voilà. On peut voir néanmoins que dans l'embryon drosophile, si l'on regarde la partie latérale en rouge, mon pointeur ne marche plus, donc suivez ce que je dis, en rouge dans la partie latérale, on a un comportement d'écoulement. C'est un tissu qui va s'allonger à peu près d'un facteur 2 en quelques dizaines de minutes. Alors que le tissu en bleu dans la partie ventrale et postérieure, c'est un tissu qui va s'invaginer, avoir une courbure qui va apparaître. On peut voir dans ces cellules-là le même type de comportement d'un réseau d'actomyosine pulsatile que vous voyez ici dans ce film que je démarre maintenant, en vert, vous voyez myosine 2, qui apparaît, disparaît. Il y a des pulsations qui sont présentes dans toutes ces cellules, sauf dans la partie dorsale. Donc encore une fois, on peut voir quels paramètres de contrôle permettent de régionaliser le comportement pulsatile. La période étant néanmoins la même, et on verra dans les cours prochains comment ces comportements unifiés au niveau cellulaire donnent naissance à des comportements macroscopiques radicalement différents. Invagination dans un cas, écoulement dans un autre. Mais je voulais au moins mettre en contexte développemental ce que je vous ai présenté précédemment. Donc, vous voyez les cours du 11 et du 18 décembre. Alors, ça c'est le cas de l'embryon précoce de drosophile, mais on peut regarder d'autres systèmes sur la drosophile, et à vrai dire, maintenant, chez quasiment tous les organismes où les gens maintenant ont utilisé les méthodes de microscopie plus avancées pour regarder avec une cadence temporelle et une résolution spatiale suffisante, on voit des comportements dynamiques de d'actomyosine pulsatiles. Ici, il s'agit d'un épithélium dans lequel la pulsation ne va pas être apicale mais basale et qui va participer à un phénomène de rotation collective de tout l'épithélium autour, sur la base d'une matrice extracellulaire représentée ici en vert. Donc les périodes ne sont pas les mêmes, les mécanismes sont même différents, il ne s'agit pas de simplement rokinase, comme je l'ai présenté précédemment, mais de dynamiques calciques représentées ici, qui peuvent aussi, comme vous le savez, activer myosine 2. Je voudrais aussi poursuivre par la présentation de l'embryon précoce de souris. J'en avais parlé l'an dernier dans les cours sur la tension corticale et le lien avec l'adhésion, pour montrer que lors du phénomène de compaction dans l'embryon de souris, il y a une modification, non pas tant de l'adhésion entre cellules, mais en fait de la tension corticale, qui est abaissée aux interfaces entre les cellules et accrue dans la partie libre de ces cellules. Et lorsque l'on regarde ces cellules, on peut voir, le film va le montrer, en fait, une dynamique de densité d'actine qui peut s'analyser au cours du temps, avec une amplitude qui dépend de l'activité du moteur myosine 2. Ici, les auteurs utilisent un inhibiteur, la bébistatine de myosine 2, qui modifie l'amplitude de ces fluctuations de vitesse de ce cortex. Alors, lorsque l'on extrait ces cellules de leur embryon natif, donc dans une configuration pas tout à fait physiologique, on voit néanmoins un phénomène très intéressant où ces cellules, au cours du temps, modifient à la fois leur courbure. Donc, on a ici une étude au cours du temps, d'accord ? Il s'agit ici de la courbure de l'embryon, enfin de la cellule, pardon, et ici une évolution de la densité d'actine. On voit très clairement apparaître une dynamique spatiale, une dynamique temporelle, avec des écoulements, trigger wave. Les mécanismes ne sont pas connus, mais il y a fort à parier qu'il y a quelque chose qui a à voir avec tout ce dont je vous ai parlé précédemment aujourd'hui. Et j'aimerais finir par cette étude particulièrement intéressante dans un épithélium qui n'a une configuration différente. Il s'agit d'un tube épithélial dans le système respiratoire de la drosophile qu'on appelle les trachées. Il y a une lumière au centre entourée par un tube épithélial. On peut voir ici les contours des cellules. D'accord ? Cette lumière en fait, correspond à la zone d'échange avec l'air qui rentre par ce réseau tubulaire à l'intérieur de l'organisme. Et vous voyez ici représenté schématiquement ce qui est montré à partir d'un marquage d'actine. Le long de ce tube, vous voyez une espèce d'organisation périodique de la densité des filaments d'actine qui peut se représenter par en fait, la brisure d'une continuité initiale avec l'apparition de discontinuités comme des zébrures le long de ces réseaux. Et les auteurs montrent, par une étude expérimentale et théorique, ces instabilités peuvent s'expliquer vraiment selon le type de schéma théorique que l'on a vu précédemment, et en particulier un gel actif qui a un écoulement visqueux, et avec l'introduction aussi du turnover des composants. Donc ici, on regarde l'actine, d'accord, et myosine qui est en excès va s'équilibrer avec l'actine. C'est ce que les auteurs proposent. On retrouve ici comment l'évolution temporelle de la concentration d'actine dépend d'un terme de diffusion, d'un terme d'advection et d'un turnover, avec un temps caractéristique tau. On retrouve également l'existence d'une friction avec ce coefficient non plus gamma comme avant, mais zeta. Voilà. Et puis la description du stress actif, du stress des contraintes totales, qui avec une composante active, écrit différemment par rapport aux autres études, mais ça revient au même, et puis une contrainte visqueuse dans le réseau. Et le point important est que la contractilité liée au moteur, la contractilité dans ce réseau, qui dépend en fait de myosine 2, hein, qui joue un rôle très important, et que c'est lié à l'actine, doit contrecarrer à la fois l'effet de la diffusion et de la résistance liée à la friction dans ce réseau. Et les auteurs identifient donc une valeur critique où apparaît en particulier donc ce terme de diffusion et de friction dans le réseau qui joue un rôle donc très important. Et ici, les composantes de la diffusion et du turnover qui jouent aussi un rôle important au sens où si jamais le turnover est très important, ou plutôt ici on peut voir s'il est très faible, il va falloir une tension active, enfin un stress actif beaucoup plus important pour arriver à créer cette instabilité. Et les auteurs dérivent en fait la longueur caractéristique de ces instabilités en une dimension, où on retrouve l'effet antagoniste de la diffusion et de la friction. Et en particulier, les auteurs font une prédiction, c'est que si l'on modifiait le terme de friction, on modifierait la longueur d'onde. Donc c'est précisément ce que les auteurs font dans un second temps. Donc ils vont jouer sur des paramètres biologiques censés moduler ce terme de friction. Friction entre le réseau d'actine et puis la partie corticale de la cellule. Alors, ils considèrent deux paramètres qui vraisemblablement peuvent jouer sur ce terme de friction. Le premier, c'est finalement l'intégrité des jonctions, dont on a vu l'an dernier, qui est une composante cadérine, les caténines et le couplage avec l'actine. En compromettant ces jonctions, on voit bien que l'on jouerait sur le paramètre de friction entre le cortex d'actine et ses structures apicales de la cellule, et donc potentiellement que l'on réduirait la friction. Alors, ils utilisent pour cela un mutant. L'étude ne montre pas de façon systématique tous les mutants possibles des jonctions, mais ils en étudient un qui peut modifier la friction, mais peut-être modifier d'autres choses. Mais néanmoins, on voit très clairement une modification de la longueur caractéristique de ces... Alors ça, c'est le schéma, donc c'est très, très bien représenté. On peut voir ici néanmoins l'évolution du pattern. J'essaie de retrouver les longueurs caractéristiques analysées. Oui, voilà, ici. Donc on voit ici en fait l'espacement entre les anneaux d'actine dans la partie sauvage qui est plus augmenté en vert dans ce mutant pour SARC42. Et un cas finalement extrême où les auteurs maintenant utilisent un mutant de chitine synthase qui est un composant en fait de la matrice extracellulaire chitineuse dans la lumière de cet épithélium. Et en affectant les couplages avec cette matrice qui serait donc dans cette partie apicale, de l'autre côté de la membrane, on s'attendrait à ce qu'il y ait aussi une friction plus faible. Et de fait, là, maintenant, le phénomène est encore plus dramatique. Au lieu d'avoir une zébrure très caractéristique, il y a même un collapse de tous les éléments d'actine dans des régions caractéristiques. Donc, semblant indiquer que... Donc là, on avait cette modification significative mais subtile lorsque l'on compromettait un peu sans doute la friction, et là un effet beaucoup plus dramatique dans ce cas-là. Donc voilà une étude expérimentale qui semble aller dans le sens d'un effet de la friction dans l'organisation de structures périodiques d'actine dans ce tube, dans la lumière de ce tube épithélial. Voilà, donc on peut se demander poser la question de savoir à quoi servent toutes ces dynamiques spatio-temporelles. Souvent, ça fait à peu près une bonne dizaine d'années que ces dynamiques ont été observées in vivo, d'abord chez quelques organismes, puis maintenant de façon très ubiquitaire. Je vous propose quelques lignes de réflexion pour ce que cela intéresserait, sur peut-être le rôle de ces instabilités spatiales et temporelles. Certainement, ils révèlent la caractéristique hors équilibre des systèmes biologiques. On le verra en ce qui concerne la constriction apicale dans les figures développementales où le tissu s'invagine. On le verra également lors des écoulements de tissu par des processus dits d'intercalation. Et pour ce qui est de la fonction biologique, je vous propose au moins 5 points. Le premier, et cela est inspiré par des études de simulation, notamment dans les systèmes morphogénétiques dont on parlera prochaine fois, les pulsations introduisent finalement une espèce de bruit actif, c'est-à-dire qu'on sait bien que pour que les systèmes puissent évoluer, il faut qu'il y ait du bruit. Et dans les simulations, notamment dans les systèmes décrits à l'équilibre, où on a une énergie qui décrit l'énergie des interfaces entre cellules, pour faire évoluer ces systèmes, par exemple de l'intercalation, il faut introduire un bruit. Les données expérimentales montrent qu'il existe un bruit, mais qui est de nature active. Ces pulsations, en fait, à un rythme d'à peu près une période d'à peu près 100 secondes, introduisent des modifications de configuration des cellules qui permettraient aux cellules qui sont hors équilibre, mais pas si loin peut-être d'un équilibre, d'explorer toute une série de configurations, de ne pas être bloquées dans ces états-là. Le deuxième élément, c'est une réflexion sur les caractéristiques plutôt viscoélastiques de ces réseaux. Quand on a des déformations périodiques introduites par des pulses, on a un temps caractéristique de l'ordre de quelques dizaines de secondes pour des pulses dans les embryons tels qu'étudiés chez la drosophile, par exemple. Et en même temps, ces réseaux ont des temps caractéristiques de dissipation. Il y a une étude à laquelle je ferai référence dans deux cours qui montre en fait que ces valeurs relatives de déformation étant caractéristiques de dissipation permettent de dicter le régime de réversibilité ou d'irréversibilité des déformations. Donc on peut imaginer en fait que en jouant sur ces régimes de déformation pulsatile, il y a moyen en fait de réguler les caractéristiques réversibles ou irréversibles des déformations développementales. Le troisième point est que ces régimes pulsatiles, et notamment le fait que, et certaines études montraient que naturellement on obtient un antiphasage entre des cellules voisines qui ne pulsaient pas en même temps, permettent à un tissu de notamment, je pense à la myocéreuse dans la drosophile, la partie dorsale de l'épithéome, mais également dans l'embryon de drosophile précoce, sauf considération particulière, les pulsations ne sont pas synchrones. Et donc on peut voir ici le moyen de permettre une dynamique collective par une espèce de fluidisation du système, parce que les cellules ne sont pas synchrones. S'il y a un mécanisme qui permet de synchroniser les dynamiques, et nous verrons que c'est possible, et nous le verrons en particulier la prochaine fois, à ce moment-là, on entre dans un régime différent qui est de tensions qui se élastiquent, qui en fait s'accumulent dans le système et qui a des conséquences différentes sur la dynamique, notamment d'invagination. Le quatrième point, c'est toutes ces dynamiques maintenant, pas tellement pulsatiles, mais de trigger waves, donc de propagation spatiale de l'activité contractile d'un réseau d'actomyosine ou de polymérisation d'actine dans les cellules qui sont en migration. Mais en tout cas dans un réseau contractile permettrait potentiellement en fait une propagation spatiale à grande distance et donc un mode de communication à grande distance. Et nous verrons la prochaine fois un cas possible où ce genre de choses joue un rôle important. Et le dernier point, je l'ai mentionné lorsque je parlais de la migration cellulaire, finalement dans un système auto-organisé avec des ondes progressives d'activation d'actine ou d'actomyosine, on voit bien que ce système est potentiellement adaptable à l'environnement, en ce sens qu'il peut très rapidement permettre à la cellule d'explorer, de concentrer son activité dans une partie libre, alors qu'elle pourrait rapidement se désassembler dans une autre zone. Donc un système beaucoup plus adaptable, sans doute, à l'environnement, et c'est pour cela, sans doute, qu'on peut imaginer que ces stratégies auto-organisées sont au cœur du fonctionnement des cellules. Voilà. L'autre point, et pour finir, on voit donc maintenant une dynamique de complexité extrêmement... une complexité des dynamiques contractiles, la forme des cellules extrêmement grande, qui émerge finalement, j'espère que vous en serez d'accord, et c'était en ce cas l'effort que j'essaie de faire dans ces deux cours, de règles d'interaction qui peuvent se réduire à finalement peu de choses, des interactions locales autocatalytiques, des interactions à grande distance inhibitrices, qui se réalisent de multiples façons, parce qu'en biologie, ces modes de régulation sont multiples et variés, mais qui néanmoins reposent sur des principes généraux. Voilà, donc je finis en fait ces deux cours qui étaient en fait une étude plus en profondeur des structures auto-organisées, principalement au cœur des cellules, mais nous allons voir maintenant dans les deux cours précédents comment ces dynamiques collectivement participent à la dynamique de tissu en voyant séquentiellement l'invagination puis l'écoulement. Donc la complexité émerge d'interactions simples. Pour des raisons visuelles, je montrais cette termitière. Maintenant, je pense que vous aurez une idée claire au cours de la dynamique cellulaire. Donc, dans une semaine, nous verrons des choses aussi variées que les circonvolutions du cortex, modification de la courbure des organes, d'une façon statique et dynamique, en ayant toujours en trame de fond les aspects de contrôle, de programme et d'auto-organisation des dynamiques, mais à une échelle plus large. Je vous remercie.